Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Mondial Sport, les plus grands exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Les plus grands exploits aux quatre coins du globe et à toute blinde, si on devait résumer le sport à une action, ce pourrait être celle très simple, naturelle, essentielle, si je puis dire, de courir, de faire la course, d'aller vite, le plus vite possible, d'arriver plus vite, d'arriver avant les autres. La preuve ultime, si je puis dire, c'est que la course est régulièrement présente au sommaire de Mondial Sport. Si c'est pas une preuve, ça. Elle est présente grâce à l'actualité. Le marathon de Paris et Paris-Roubaix au programme ce dimanche. Course à pied et endurance d'un côté. Pavé, pédale, enfer et vélo de l'autre. Dans tous les cas, c'est ancien et c'est mythique. Mais nos jeunes envoyés spéciaux sont là pour apporter une touche de fraîcheur à ces épreuves. Avec nous également, l'auteur d'un livre sur la course, à ne pas rater si vous faites vos courses, les 50 coureurs qui ont marqué l'histoire, athlétisme, marathon, trail, son auteur et notre invité.
Allez, c'est parti, je dis 5, 4, 3, 2, 1, à vous!
Bon, il y avait une super ambiance tout du long, hein. Le semi c'est pareil, c'est toujours une superbe ambiance à Paris. Je pense que cette ville n'a rien à envier aux autres.
Franchement, ça m'a fait chialer du début à la fin, quoi. Non, parfait, franchement super. Merci à tous les supporters, ça fait bien le sourire. Ouais.
C'est parti, ici aussi, à vous, bonne course. Enjoy it. Good run, you're free to go.
Allez, on est toujours dans les 5e. Profitez un maximum, c'est votre jour.
Quelle ambiance! Dans le cœur de Paris, ce dimanche matin, double ration de marathon dans la ville lumière en 2024. On va pas se plaindre. Le marathon olympique, bien sûr, cet été, à l'occasion des Jeux. Et le marathon de Paris, tout court, l'un des grands marathons mondiaux dans cette saison où l'on court un peu plus de 42 km dans différentes villes aux quatre coins du globe. C'est un rendez-vous annuel, le marathon de Paris. Et l'édition 2024, vous l'avez entendu, elle a eu lieu ce matin. Bonjour Sylvain Bazin.
Bonjour.
Journaliste, auteur des 50 coureurs qui ont marqué l'histoire aux éditions de Boc. Vous êtes notre invité, merci beaucoup d'être là. Et le marathon occupe une place de choix dans votre ouvrage, tout comme d'autres épreuves de l'athlétisme, ainsi que le trail. Alors, on va laisser le trail de côté. Promis, on en parlera bientôt dans Mondial Sport. Le marathon, ça vous plaît? On voit ça, on le lit. Vous avez suivi le marathon de Paris ce matin?
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que le marathon de Paris, ça reste une grande fête de la course à pied, une grande fête populaire. Alors, c'est vrai que cette année, c'était un petit peu davantage, sans doute, une grande fête populaire qu'une course de très haut niveau, en tout cas au niveau français, parce que bon, c'est vrai qu'avec les qualifications olympiques, c'est pas forcément le parcours le plus simple pour ça, mais ça reste une très très belle fête populaire pour l'ensemble de la course à pied, à la fois en France et à l'international. C'est une belle vitrine aussi.
Oui, on a entendu ça tout à l'heure, il y avait du monde des supporters, il y avait aussi un envoyé spécial de RFI qui n'a pas parcouru les 42 km et même un petit peu plus du marathon de Paris. Il les a couverts, comme on dit dans notre jargon. Bonjour Sofiane Amassian.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors vous étiez présent, avenue Foch, c'est à deux doigts des Champs-Élysées,
ouais,
petit chanceux, bon, sous la grisaille, mais néanmoins pas trop de pluie.
Quelques gouttes.
Allez. Et vous avez accueilli donc les vainqueurs du jour sur le marathon de Paris. Le 47e, ouais. Édition, deux Éthiopiens se sont imposés, l'un chez les hommes, l'autre chez les dames. On va commencer par elle. Elle s'appelle comment la victorieuse
Elle s'appelle, je vais vous le dire, Mestaout Fikir.
Voilà.
C'est un peu compliqué à prononcer.
Je voulais vous tester un petit peu. On va pas se mentir. Voilà la coureuse qui a remporté la version féminine, mais vous voulez aussi nous parler du jeune Mulugeta Ouma. C'est sa première victoire, donc chez les hommes cette fois, lui aussi éthiopien, sur le marathon de Paris et le marathon tout court.
Ouais, c'est tout simplement la plus belle victoire de ce Mulugeta Ouma, 26 ans, pas énormément de références avant de fouler les 42,195 km, voilà, pour être précis, la distance officielle du marathon. Ouma qui a parfaitement géré sa course, qui est partie très vite, hein, la course des hommes est partie très vite, ça a un peu ralenti au milieu, ça s'est réaccéléré à la fin. Il y a eu un vrai duel avec le Kenyan Titus Kipruto. Il pensait avoir fait la différence, Kipruto, à 6 km de l'arrivée, mais Ouma s'est échappé seul au 39e kilomètre et remporte ce 47e marathon de Paris avec un plutôt bon chrono, 2h05 et 33 secondes. Il était très heureux, Muguruza Uma. On l'a interrogé et on l'écoute tout de suite.
Les conditions climatiques étaient bonnes, même s'il faisait un peu froid au début. La course s'est bien passée, même si après 20 km parcourus, j'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'on allait trop vite. Il fallait ralentir un peu, mais malgré tout, pour gagner, il fallait garder le rythme. Et c'est ce que j'ai fait pour remporter ce marathon. Je suis très heureux de ma victoire. Mon premier marathon ici à Paris. Et en plus, je bats mon record personnel.
Allez, pour être complet, Hugo, je vais vous donner le podium. On parlait de Titus Kipruto, le Kenyan qui finit évidemment deuxième. Le troisième, c'est Elisha Rotic, qui est recordman de l'épreuve à Paris. Il avait fait 2h04 et 21 secondes, c'était en 2021, il y a 3 ans. Bah, le voilà, troisième sur ce 47e marathon de Paris.
Il est un peu chez lui à Paris. Côté dame, c'est donc une Éthiopienne. L'Éthiopie très très bien représentée. Ça s'est joué vraiment à la toute fin, la dernière ligne droite, les 200 derniers mètres.
Et si je vous dis que ça s'est joué sur un sprint, après 42 km de souffrance, que vous me croyez.
Et bah, ça réunit deux traditions de la course, ça va plaire à Sylvain Bazin.
Bah, en tout cas, c'est ce qui s'est passé ce matin, c'était assez étonnant. Et c'est donc Mestaoud Fikir qui s'est montré la plus forte dans ce sprint, a signé un temps de 2h20 minutes et 45 secondes, à une minute seulement du record de l'épreuve. C'est une première pour Fikir, c'est son tout premier marathon. Vous imaginez le talent qu'a cette jeune coureuse de 24 ans, participer à une telle épopée, réaliser un tel chrono. On écoute sa réaction.
Je suis très heureuse d'avoir gagné la course. En milieu de parcours, j'ai eu des difficultés à suivre le rythme, mais j'ai pas lâché. J'ai cru jusqu'au bout et à la fin, mon adversaire a lâché au sprint. J'ai pu franchir la ligne la première. Je suis tellement heureuse, c'est mon premier marathon en carrière et je le gagne dans cette ville magnifique.
Et une autre Éthiopienne finit deuxième, Enat Tirusu, à 3 petites secondes. Troisième place pour la Kenyane Viviane Cheruiyot.
Et donc Mestaoud Fikir, fallait bien que je m'y colle, a remporté le premier marathon qu'elle a disputé, couru en carrière. Quel exploit et dans quel cadre? Le marathon de Paris, la ville lumière, un magnifique tour d'horizon des principaux lieu immanquable de Paris, de cette ville qui fait rêver jusqu'à une série Netflix bien connue.
Bah, pratiquement, oui. C'est une carte postale, finalement, le marathon de Paris. On va donner les points principaux pour visualiser un petit peu le parcours.
Et je vous laisse
faire
la visite.
Et bah, c'est parti. On commence tout simplement autour de 8h du matin, heure française, 6h temps universel sur les Champs-Élysées, une avenue très 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 large. Tout de suite, on part vers le sud de Paris. On passe par l'hôtel de ville qui est aussi une place forte de la ville. Le bois de Vincennes qui est dans le sud-est parisien. Ça va monter un petit peu à ce moment-là. C'est là les premières difficultés pour les marathoniennes et marathoniens. On retourne en ville, direction l'ouest. On entre évidemment dans le bois de Boulogne. Ça, c'est juste après le fameux mur du 33e kilomètre qui fait peur à énormément de coureurs professionnels et amateurs. L'arrivée, elle, se fait avenue Foch. C'est juste derrière, on le disait en début d'émission, l'Arc de Triomphe, juste après avoir traversé la place du Trocadéro. Ça fait beaucoup, beaucoup de belles places de la ville de Paris en si peu de temps, finalement. 42 km, c'est court.
Alors ça, c'est pour les yeux. Et puis pour les oreilles, il y a la chaleur et les clameurs du public sur le bord de la route.
Ça, c'est comme d'habitude, finalement. Des fans qui crient, qui applaudissent, qui encouragent. Et ça donne des ailes aux coureurs qui ont du mal, surtout en fin de parcours, pour terminer ces 42,195 km. J'ai pu rencontrer quelques coureurs juste après la ligne d'arrivée. Et voilà ce qu'ils m'ont expliqué.
Ouais, l'émotion, là, c'est cool. Ça fait la quatrième fois que je le fais. Et à chaque fois, je fais un meilleur temps. Et là, pour la première fois, j'avais la prétention vraiment de me dire je veux faire moins de 3 heures en sachant qu'il y en a plein qui échouent et tout ça, donc ça me mettait un petit challenge supplémentaire. Et pendant toute la course, j'étais trop bien, mais un marathon, c'est ce que c'est, il y a des choses qui nous arrivent en pleine gueule à un moment donné de la course, mais j'arrêtais pas de me rassurer en disant je suis trop bien, et il n'y a rien qui a craqué, donc super content. À un moment donné, à kilomètre 35, je savais que de toute manière, ça allait bien se passer, donc super content.
Tous les ans, c'est pareil, on partage avec plein de gens. C'est vraiment un moment où tout le monde est ensemble et tout le monde s'entraide, et à la fin, on les retrouve, on se congratule tous. C'est un super moment.
Franchement, ça m'a fait chialer du début à la fin, quoi. Non, parfait, franchement super. Merci à tous les supporters, ça fait bien le sourire. Ouais. De toute façon, c'est bien simple, hein. Je pense que je le mets à la même épreuve sans public. On enlève une poignée de minutes sans problème.
Premier marathon et j'espérais 3h15 et je crois que j'ai battu mon record de 15 minutes, donc c'est énorme. Je suis super content. Il y avait une super ambiance tout du long. Le semi, c'est pareil, c'est toujours une superbe ambiance à Paris. Je pense que cette ville n'a rien à envier aux autres.
Allez, on va refermer avec un énième cadeau pour les fans de marathon qu'on vient d'entendre. On va comparer les deux marathons donc de Paris cette année. Sofiane Amazian, celui qui s'est couru ce matin, le classique si je puis dire, et puis celui de cet été qu'on attend, celui des JO de Paris et qui va en faire chialer, entre guillemets, quelques-uns aussi.
Ah bah, il n'est pas classique celui-là, Hugo. Paris va voir les choses en grand, en très grand, sur ce marathon des Jeux. Il y aura 9 villes traversées sur les 42,195 km. Entre autres Versailles et le fameux château de Versailles, les coureurs pourront l'apercevoir. L'arrivée se fera aux Invalides, le départ à l'hôtel de ville, donc c'est pas vraiment les mêmes départs et arrivées que sur le marathon plus classique, c'est vraiment très différent. Il est d'ailleurs jugé très difficile par les spécialistes de la discipline, ça va énormément grimper, il y a plusieurs côtes assez raides et un dénivelé, c'est la différence de hauteur, je la fais assez courte, entre deux zones géographiques de la course, c'est un dénivelé à plus de 400 mètres, c'est énorme pour un marathon. Ça va grimper et ça va aussi descendre, il y a un rapport donc de 400 mètres. Ce qui peut être aussi assez compliqué pour le souffle, pour le rythme cardiaque. Donc ça en fera un marathon très, très, très compliqué, mais finalement très beau à voir aussi sportivement.
Sylvain Bazin, dans votre livre « Les 50 coureurs qui ont marqué l'histoire », il est beaucoup question de champion olympique du marathon. Il va marquer l'histoire, ce marathon de Paris, avec son parcours carte postale, là encore, et ses difficultés.
Oui, sans doute. Ouais. Oui, bah, c'est vrai qu'il reprend une partie, par exemple, de la course qui est très connue du Paris-Versailles avec la fameuse côte des gardes. Hein. Donc les coureurs franciliens connaissent bien. Mais c'est vrai que oui, c'est un parcours un peu atypique avec du dénivelé. Donc ça va forcément changer un peu la donne par rapport à ces marathons ultra rapides dont on a un peu l'habitude maintenant. Et ça peut, ouais, ça peut changer des petites choses, même par rapport aux meilleurs coureurs qui seront devant, même si bon, sans doute que ce seront quand même sans doute les favoris qui sont attendus. Mais il y a quand même une donnée un petit peu différente sur ce parcours qui sera certainement très spectaculaire, très scénique, hein, avec évidemment tous ces monuments. Et puis ça donnera un peu une vision différente, ouais, effectivement, avec Paris, mais pas que Paris, hein, de Paris à Versailles. Ça rappellera peut-être un tout petit peu le marathon d'il y a 100 ans, de Paris 1924. Hein, si on s'amusait à refaire le parcours, on serait assez surpris. Mais,
on sent que vous êtes plongé dans l'histoire. Sylvain Bazin, simplement, l'un des derniers coureurs présents dans votre liste, si je puis dire, c'est Eliud Kipchoge, le Kenyan, double tenant du marathon olympique. C'est toujours lui le favori pour Paris, sachant que... La nouvelle star du marathon, pardon, ouais. Kelvin Kiptoum nous a malheureusement quitté le recordman du monde.
Malheureusement quitté, effectivement. Alors, Kipchoge, pour l'instant, il est dans les 11 présélectionnés. Il n'y a pas encore eu la sélection officielle pour le marathon olympique dans l'équipe du Kenya. Donc bon, il sera certainement présent. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, évidemment, au Kenya. C'est sans doute le pays où il y a le plus de concurrence intranationale pour le marathon. Mais bon, c'est vrai que Kipchoge, c'est devenu aussi un monument national au Kenya. Il est double champion olympique en titre. Il a le record du monde. C'est le seul à avoir couru, alors certes officieusement, mais il a quand même couru 42 km 195 sous les deux heures, alors dans des conditions particulières, non homologuées, avec des voitures ouvreuses, des lièvres qui se relayaient, tout ça. Mais enfin, il a quand même couru la distance en moins de deux heures. Donc de toute façon, c'est un monument du marathon. Et effectivement, alors le triplé olympique, ça serait la première, hein, la première fois que ça arrive. Il y a eu déjà des doublés, hein, Bébé Bikila, évidemment.
Dont on parlera dans quelques instants,
mais voilà, il y en a eu.
Et ce serait une première aussi, pour Kipchoge. On va parler des grands coureurs de l'histoire, ceux que vous avez répertoriés, marathon notamment, et Bikila notamment, l'Éthiopien. Sylvain Bazin, Eliud Kipchoge, on va le laisser là, le dernier vainqueur en date du marathon olympique. On va vous quitter également, vous allez nous quitter également, Sofiane Amazian. Merci à vous. On va parler dans un instant du premier vainqueur du marathon olympique. Restez avec nous, mais tout de suite, un dernier hommage au haut niveau des coureurs, des coureuses parisiennes affichées ce matin. Parisienne high level, c'est Opinard dans Mondial Sport, et c'est de la musique.
Avec elle je me sens bien et je trouve ça lourd. Elle m'a dit qu'elle a vu bien trop de salauds dans sa vie. Me parle sans cesse des plages de salauds. Mais tant qu'on est de même à Quimper, elle trouve ça lourd. On pourrait même sauter dans le vide à deux. Je connais chaque aspect de son visage. Elle rend si joli mon paysage. Elle me rend taré, elle me rend fou avec son parfum Dior. Elle sent si bon, elle est chic à la mort. Je peux en dire long sur elle. Elle fait partie de celles qui sont bien au-dessus d'échelle. Parisienne high level. Parfum Dior, elle sent si bon, elle est chic à la mort. Je peux en dire long sur elle. Elle fait partie de celles qui sont bien au-dessus d'échelle. Parisienne high level. Elle me dit qu'elle ne veut pas que je la délaisse. On fait nos projets d'appart sur Pinterest. Elle parle sans arrêt mais ça m'intéresse. Souvent à moitié. Et je la traite comme si c'était le plus beau tableau de Vinci. Parfum Dior, elle sent si bon, elle est chic à la mort. Je peux en dire long sur elle. Elle fait partie de celles qui sont bien au-dessus d'échelle. Parisienne high level. Parfum Dior, elle sent si bon, elle est chic à la mort. Je peux en dire long sur elle. Elle fait partie de celles qui sont bien au-dessus d'échelle. Parisienne high level.
Parisienne high level au Pinard avec du Dior, si j'ai bien compris, en parfum. Là, c'est Mondial Sport sur RFI, ça rime. Sylvain Bazin est notre invité, journaliste, auteur des 50 coureurs qui ont marqué l'histoire. Un bouquin de circonstances, si je puis dire. On est à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Il y aura de la course, il y aura beaucoup d'exploits dans la course à pied sur les pistes et les routes parisiennes cet été. Parmi les 50 coureurs qui ont marqué l'histoire, le premier champion olympique du marathon et le premier vainqueur d'un marathon tout court.
Spiridon Luis finished his army service, returned to his village and married Eleni and had three sons. He refused to accept the 100,000 drachmas prize money and never ran another race. To this day, he remains a symbol of national pride. The inscription on his gravestone reads, "Blessed by the gods, a hero of Greece."
Spiridon Luis, héros de la Grèce, vous venez d'entendre un extrait d'un vieux téléfilm dont j'ai déjà parlé dans Mondial Sport, sur les premiers jeux de l'histoire moderne à Athènes en 1896. Spiridon Luis, personnage principal, sa victoire sur les terres des JO antiques dans une épreuve qui rend hommage au passé antique des JO avait évidemment ravi le public grec. Sylvain Bazin, dans un contexte en plus d'émancipation nationaliste par rapport à l'Empire ottoman, donc on est à la fin du 19e siècle, c'est vraiment une autre histoire. Spiridon Luis, oui. Porteur d'eau littéralement dans la légende parce qu'il a gagné le premier marathon tout court de l'histoire.
Oui. Enfin, alors, il y avait eu des épreuves de sélection organisées en Grèce, justement. Il avait terminé, pour la petite histoire, il avait terminé cinquième et dernier qualifié de la deuxième épreuve de sélection. Donc, c'était la deuxième course de sa vie. On a souvent dit que c'était la première. C'est la deuxième et la dernière. Et puis, évidemment, il a gagné la course la plus importante. C'était en plus la seule victoire grecque de ses premiers Jeux Olympiques.
Riche en symboles pour la Grèce.
Il
fallait une victoire.
Il y avait 4 étrangers au départ. Donc, c'était quand même un peu plus simple. Sur 30 engagés, il y avait 4 étrangers. Mais c'est lui qui a gagné. C'est lui qui reste dans l'histoire à jamais. C'est vrai que le terme Spiridon, il a même été repris ensuite dans le mouvement des courses hors stade des années 70. C'est vraiment un nom qui est resté. En Grèce aussi, c'est vraiment resté. Il y a même une expression en grec qui veut dire filer vite et qui reprend son
prénom,
son patronyme,
Spiridon Luis.
Spiridon Luis, ouais, voilà.
Sylvain Bazin, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que si le marathon rend hommage à la Grèce antique, ce n'est pas, comme d'autres épreuves, une épreuve qui existait dans les JO de la Grèce antique.
Non,
c'est une adaptation, on va dire.
C'est une adaptation. Alors, c'est vrai que dans la Grèce antique, les distances les plus longues, c'était entre 2000 et 3000 mètres. Hein. C'était pas dans les Jeux olympiques antiques, il n'y avait pas d'épreuve de grand fond. Et puis, c'était un ami du baron de Coubertin, qui était évidemment un helléniste, hein, qui s'est dit, on va introduire cette épreuve de 40 km de marathon à Athènes, en rendant hommage aussi à la célèbre bataille du marathon, hein, puisqu'il y avait la légende de Philippides, hein, donc le messager qui est allé porter le message de la victoire à Athènes. Le baron de Coubertin n'était pas très chaud au départ pour l'intégrer, puis finalement il s'est dit ça va faire un symbole, c'est pas mal. Et au dernier moment, ils se sont décidés pour intégrer cette course qui faisait 40 km hein, à l'origine, pas 42-195. Ça, c'est une autre histoire, ça date de 1908,
hein,
la distance officielle. Puisque c'était la distance entre le balcon à Windsor du roi d'Angleterre jusqu'à la ligne d'arrivée de Wembley, parce qu'il fallait que ça parte devant les fenêtres du roi. Et donc ensuite, ça a été adopté comme distance officielle, mais le premier marathon olympique s'est couru sur une quarantaine de kilomètres.
Et donc, remporté par Spyridon Don Louis, bien né finalement ce marathon avec un héros grec pour un hommage à la Grèce antique. On continue à parler de ces coureurs qui ont marqué l'histoire, enfin de quelques coureurs qui ont marqué l'histoire et notamment de coureurs africains, parce que évidemment ça nous intéresse beaucoup dans Mondial Sport sur RFI avec vous, Sylvain Bazin. Mais tout de suite, on va jeter un coup d'œil à l'actualité sportive.
Mondial Sport.
Au reste de l'actualité sportive avec Olivier Pron qui nous a rejoint en studio. Bonjour Olivier.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Il n'y a pas que de la course, il y a aussi du football dans cette actualité sportive. Football en Afrique, la suite des Coupes d'Afrique de clubs après la Ligue des Champions, les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération.
Ouais, c'est pas mal non plus. Bon, il n'y a pas franchement beaucoup plus de buts, mais enfin, pour l'instant, on n'a qu'un match.
On n'attend plus grand-chose.
Dreams FC, oh, quel joli nom. Le club ghanéen qui reçoit le stade malien des Ghanéens qui s'était imposé 2-1 à l'aller. 0-0 après 30 minutes de jeu. Suivront ce soir des matchs bien tardifs. Hein. Ramadan oblige. Zamalek Futur FC, c'est un choc entre équipe égyptienne. Ce sera à 20h temps universel. Le Zamalek l'avait emporté 2-1 à l'aller. 21h TU, l'USMA d'Alger face à Rivers United, les Nigérians qui l'avaient emporté 1-0 chez eux au Nigeria. Donc il y a beaucoup de suspense sur ce match-là. Et puis encore plus tard, 22h temps universel au Maroc, Berkane face à Abou Salim, le club libyen, 0-0 à l'aller.
Le football en Europe, la Ligue 1, la 28e journée. Que vous avez à nous dire.
Heureusement qu'il y a eu un premier match aujourd'hui, Brest FC Metz.
Là, il y a eu des bêtes.
4-3, les Brestois, menaient 4-1, puis ils se sont un petit peu vus trop beaux et les Messins y ont cru. Ils sont revenus à 4-3, ils ont même longtemps espéré pouvoir égaliser. Et puis, on en reste là, du coup, Brest consolide un peu plus sa deuxième place à 10 points du Paris Saint-Germain, quand même, mais avec 9 points d'avance sur Nice, le 5e, 10 sur Lens, 6e. Si je vous parle de ces classements-là, c'est parce que vous le savez, les 4 premiers de Ligue 1 seront en Ligue des Champions, donc on ne peut plus se cacher du côté de Brest. On sera européen à coup sûr et vraisemblablement en Ligue des Champions. Monaco devrait se rapprocher ou pourrait se rapprocher à un point. Monaco qui mène 1-0 après 67 minutes de jeu à domicile face à Rennes. Un but d'Akliouche à la 25e minute. En cas de succès confirmé, Monaco reviendrait donc à la 3e place devant Lille à un point des Brestois. Et puis en Angleterre.
Ah bah oui, derby d'Angleterre même.
Alors il y a des dimanches qui se suivent et qui ne se ressemblent pas et c'est tant mieux. La semaine dernière, on avait été un peu triste de voir Manchester City-Arsenal, c'est ça, 0-0.
Oui, pas exactement tenir ses promesses.
Là, eh bien ce Manchester United-Liverpool a tenu ses promesses. 1-0 après la 23e minute, Luis Diaz. 1-1 Bruno Fernandes à la 50e. 2-1 pour Manchester United. Kobbie Mainoo, premier but avec Manchester United en Premier League, c'était à la 67e. Et bien sûr, le patron à Liverpool s'appelle Mohamed Salah sur pénalty, 2-2 à la 84e, 17e but cette saison pour Mo Salah. Il est finalement qu'à 2 unités d'Erling Haaland et du coup cet Arsenal qui garde sa place de leader à la différence de but devant les Reds et puis Manchester City est à un point de ce duo là. Enfin, en Italie, un résultat à vous donner, la victoire de Naples à Monza, 4-2 cet après-midi avec un but d'Osimhen, c'est lui qui a égalisé car Naples était mené 1-0. Les Napolitains sont septième, septième à 10 points quand même de la quatrième place de Bologne qualificative pour la C1. Ce sera dur pour le champion en titre.
La F1 est retour à la normale sur les circuits. On s'inquiétait pour Max Verstappen, c'est bon.
Non, on s'est dit, bon, si ça se trouve, il ne va pas gagner tous les grands
prix. Non, pas de suspense, s'il vous plaît.
Voilà, pas de suspense. Max Verstappen, troisième succès de rang ce matin à Suzuka, au Japon, le triple champion du monde en titre, avec derrière lui, comme d'habitude, son coéquipier, hein, Perez, et puis les deux Ferrari, qui réalisent un bon début de saison, Carlos Sainz, troisième, Charles Leclerc, quatrième.
Et puis, vous vouliez, avant de nous quitter, parler marathon, vous aussi.
Bah oui.
C'est la grande thématique du jour. Alors, une histoire assez surprenante en Afrique.
Oui, il y a des gars. Alors, déjà, courir un marathon pour les gars comme vous et moi, ça semble quand même une sacrée épreuve. Ben là, il y a un gars qui arrive ce soir en Tunisie. Il en a couru 385 des marathons en 351 jours. En gros, il a parcouru plus de 16 000 kilomètres. Il est parti du sud, du bout du sud de l'Afrique, du côté de l'Afrique du Sud, bien sûr. Et il arrive ce soir au plus au nord qu'il peut en Tunisie. Donc il aura parcouru toute l'Afrique
à pied.
C'est un Britannique de 27 ans, Russ Cook. Il était parti le 22 avril 2023. Et bien il arrive un an plus tard. Ça s'appelle Project Africa. Et lui, c'est le hardest geezer, le mec le plus dur, traduit-on. Ah bah, il faut être sacrément dur pour encaisser 16 000 km en courant.
En tout cas, nous on le salue.
Oui.
S'il nous écoute, on ne sait jamais. Et quel exploit.
Il aurait raison d'écouter RFI.
Quel exploit, quelle endurance. Il en va de même pour vous, Olivier Pro. Merci d'être venu. C'était plus du sprint en termes d'information, mais c'était très bien.
Je vous remplace demain dans Radio Foot. Hein.
Exactement, vous avez battu votre record personnel et puis vous enchaînez avec Radio Foot inépuisable demain. À demain donc, Olivier.
À demain, bien sûr.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Sylvain Bazin est notre invité, journaliste, auteur des 50 coureurs qui ont marqué l'histoire aux éditions de Buck. Je ne sais pas si j'avais cité votre éditeur, Sylvain Bazin. On a entendu l'exploit un peu surprenant d'un Britannique. La course à pied moderne, donc la course à pied existait déjà dans l'Antiquité, mais la course à pied moderne, on la doit justement, comme beaucoup de sports modernes, aux Britanniques, fin du XVIIIe siècle, c'est ça?
Oui, effectivement. Ouais, il y a eu un peu la première vague de la course à pied moderne qu'on a retenu sous le nom de pédestrianisme, qui concernait
c'est
d'ailleurs
joli.
Des. Ouais, mais ça concernait d'ailleurs des coureurs de grands fonds, hein, qui aimaient justement faire des paris sur des très longues distances. Hein. Notamment, l'histoire a retenu l'exploit du Captain Barclay qui avait parcouru 1000 miles en 1000 heures, mais il ne s'agissait pas de courir simplement 1600 km en moins de 1000 heures, mais d'effectuer 1 mile, 1609 mètres, chaque heure pendant 1000 heures, ce qui impose évidemment de ne quasiment pas dormir, en tout cas pas bien, pendant 42 jours. Donc c'était quand même ce type d'exploit un peu extraordinaire. Les gens pariaient, donc il y a eu un engouement populaire assez important entre le début du XVIIIe siècle jusqu'à la dernière partie du XIXe siècle, essentiellement en Angleterre, puis ensuite aux États-Unis et puis après dans d'autres pays. Et c'est ce qui est un peu ce qui marque le début de l'athlétisme moderne, de la course à pied moderne.
On apprend ce genre de choses en lisant votre livre, c'est très instructif. On va avancer dans le temps avec le premier Français et aussi le premier Africain à remporter l'or sur le marathon des JO. Je vous cite Sylvain Bazin. On est en 1928 à Amsterdam. Il s'appelle, je vais vous laisser découvrir son nom, la Seine-Saint-Denis, sachez-le. Département dont on a parlé, un voisin de Paris, département où loge le Stade de France, la piscine et le village olympique. Eh bien, la Seine-Saint-Denis lui a récemment rendu hommage dans une vidéo.
Vous ne le connaissez pas et pourtant cet homme est une grande figure sportive de Seine-Saint-Denis.
Il a remporté pour la France les Jeux Olympiques d'Amsterdam.
Je vous raconte l'histoire de Boudjira El Wafi, ce marathonien oublié au destin aussi brillant que tragique.
Tout commence en 1928. Boudjira El Wafi est sélectionné aux Jeux Olympiques d'Amsterdam pour l'épreuve du marathon. Et il y fait une course exceptionnelle et remporte le marathon en 2h, 32 minutes et 57 secondes. Boudjira El Wafi devient alors le deuxième Français seulement à réussir cet exploit. Après sa victoire, mal conseillé et peu préparé à la célébrité, il part aux États-Unis pour vivre de son talent dans un cirque. Mais ce choix est contraire aux règles de l'amateurisme et à son retour en France, il est donc exclu de toute compétition par le Comité international olympique.
Retour à la case départ, Boudjira El Wafi, il tombe dans l'oubli. Il est alors ruiné et handicapé à la suite d'un accident. Mais en 1956, nouveau rebondissement. Alain Mimoun, un marathonien français d'origine algérienne comme lui, remporte la médaille d'or aux JO de Melbourne. Il veut absolument associer Boudjira El Wafi à sa victoire. C'est donc ensemble qu'il se présente à l'Élysée devant le président René Coty. Et 3 ans après, il est soudainement tué par balle dans un café à Saint-Denis. Les raisons restent encore aujourd'hui mystérieuses. Il est enterré au cimetière musulman de Bobigny.
Quelle histoire incroyable, celle de Boudjira ou Bouguera El Wafi, arabe d'Algérie, quand l'Algérie était entre guillemets française, héros oublié, réhabilité par un héros pas du tout oublié, franco-algérien comme lui, Alain Mimoun, Sylvain Bazin. Quelle histoire assez extraordinaire qui raconte autant la France que l'Afrique. Alors, premier français ou pas à remporter le marathon? Parce qu'ils ne disent pas exactement ça, la Seine-Saint-Denis.
Ah bah oui, enfin pour moi c'est ça. Alors après si, il y a le premier français, c'est peut-être plutôt Michel Théâteau en 1900, même s'il avait la double nationalité luxembourgeoise.
Hein. Ah donc, d'accord, bon, voilà. on est vraiment à jouer sur des détails là.
Voilà, les Français ont remporté un marathon olympique tous les 28 ans jusqu'en 1956, hein. Donc Théâteau en 1900...
Et ce Boudjira El Wafi, donc il raconte une histoire de la France quand, et de l'Afrique, hein, quand l'Afrique était en partie dominée par la France. Et c'est l'histoire aussi d'un champion avant qu'on sache vraiment être un champion, quelqu'un qui a un peu brisé son destin, qui est mort de manière bizarre.
Après, c'est en fait typiquement c'est quelqu'un qui a dont le talent a été découvert à l'armée. Hein. Ensuite, il a continué. Donc, il était ouvrier à l'usine Renault, hein, à Boulogne-Billancourt. Il a continué à courir régulièrement. Il avait participé, il avait fait septième aux Jeux Olympiques de Paris sur marathon déjà. Et puis, c'est vrai qu'en 1928, à Amsterdam, il a remporté l'épreuve avec une tactique très sage. Hein. C'était quelqu'un qui n'était pas très, très rapide. Donc, il partait doucement. Et puis, il a ramassé tout le monde. Il a fait une superbe course. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il s'était laissé séduire par les sirènes du sport professionnel, mais ce n'était pas le seul à l'époque. Hein. Jules Ladoumègue, qui était l'autre grand champion français des années 30, hein, a également été disqualifié pour professionnalisme. Paavo Nurmi, la grande star des Jeux de Paris 1924, l'a été également. Donc c'était vraiment ce problème de l'amateurisme obligatoire qui était un vrai problème pour beaucoup de sportifs à l'époque, hein, pas seulement pour El Wafi. Bon, El Wafi était dans une condition très modeste, évidemment.
Donc, oui, on rappelle que le baron de Coubertin et les tenants de l'Olympisme, les créateurs, voulaient vraiment des sportifs amateurs dans leur JO.
Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, avec un sport relativement aristocratique, et évidemment, des gens, des ouvriers comme El Wafi, ils étaient quand même très tentés d'aller monnayer leur talent. Bon, El Wafi, ça ne lui a pas réussi très longtemps. Il a gagné 4 000 $ dans une course aux US. Après, il en a fait quelques autres, et puis il est rentré en France et puis il a eu une existence relativement difficile et puis une mort dans des circonstances troubles en 1959. On n'a jamais trop su s'il avait reçu une balle perdue ou quelque chose comme ça. Et puis, en 1956, il a été un petit peu remis sous les projecteurs grâce à Alain Mimoun, hein, qui était un autre champion algérien, mais on sentait bien, c'est pas la même époque, c'est pas la même personnalité non plus, et c'est vrai que Mimoun est resté un monument du sport français, alors qu'El Wafi a été très longtemps oublié. Ensuite, c'est vrai que ces dernières années, El Wafi a été beaucoup réhabilité.
Hein. Une rue à côté du Stade de France, à son nom, ça c'est quand même quelque chose. Le futur stade olympique.
Tout à fait, ouais. Il y a une rue, il y a eu un documentaire sur Arte qui était très bien, il y a une splendide bande dessinée aussi qui s'appelle Marathon de Nicolas Debon qui a été dessinée et écrite il n'y a pas longtemps, hein, qui décrit le marathon olympique 1928, qui est vraiment un très 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 bel ouvrage. Donc voilà, il est sorti de l'oubli. Ce qui est vrai aussi, que c'est le premier Africain vainqueur du marathon olympique, c'est quand même aussi une date dans l'histoire.
Oui, et c'est aussi pour ça qu'il est dans votre ouvrage, hein, bien sûr, Sylvain Bazin, les 50 coureurs qui ont marqué l'histoire. Vous l'avez dit, hein, Boudjira El Wafi, réhabilité par Alain Mimoun, champion olympique, lui, du marathon 1956. On est en 56, donc, et là, on va aller encore un peu plus en avant, 4 ans plus tard, à Rome. Une légende s'impose, pieds nus, Abebe Bikila, l'Éthiopien.
C'est là qu'il court. Là, à 2800 mètres d'altitude, dans l'oxygène raréfié que tempère à peine la senteur violente des eucalyptus. Nous sommes sur l'une des collines qui domine le haut plateau d'Addis Abeba en Éthiopie. Et lui, naturellement, c'est Abebe Bikila, phénomène de la nature ou nature phénomène. Souvenez-vous, il y a 4 ans, c'était Rome. Une victoire remportée avec plus de 4 minutes d'avance et pieds nus sur l'élite mondiale de la course de fond. Et une fois de plus, le triomphe à Tokyo, avec en prime un miracle supplémentaire. Moins de 3 semaines plus tôt, on l'opérait de l'appendicite. Mieux encore, au public japonais stupéfait, il allait sitôt franchir la ligne d'arrivée, offrir ce spectacle incroyable, celui d'un homme à peine essoufflé, soucieux seulement de se décontracter, comme une jolie femme se passerait un peigne dans les cheveux après un petit coup de vent. Nous avons appris de sa bouche, sur les lieux mêmes de son entraînement, qu'il ne suivait aucun régime et courait presque à sa fantaisie sur des distances qui avoisinaient quotidiennement celles du parcours olympique. Il n'est pas nécessaire d'être sportif pour reconnaître la beauté là où elle se trouve, surtout quand cette beauté prend les allures d'une statue en mouvement. Mes débuts, ce sont les Jeux Olympiques de Rome. Ce sont ces Jeux qui m'ont donné l'idée de devenir un homme de sport. Avant, je n'y pensais même pas. Je me considère comme un homme ordinaire. Je ne me trouve aucune valeur physique exceptionnelle. Oui, c'est cela. Je pense que je suis un homme exactement comme les autres.
Tout est étonnant dans ce qu'on vient d'entendre, ce vieux reportage de la télévision française retrouvé dans les archives de l'INA, les déclarations d'Abebe Bikila et le parcours, le talent, la facilité d'Abebe Bikila qui a presque remporté par hasard pieds nus 2 titres olympiques à l'écouter, sans même vraiment s'entraîner sérieusement, une force de la nature. On passera un peu sur les comparaisons misogynes de la télé française de l'époque. Sylvain Bazin, un double champion olympique du marathon, un peu comme Kipchoge aujourd'hui, mais une personnalité, une histoire absolument invraisemblable.
Oui, bah après, c'est aussi un peu ce que j'essaye de mettre en valeur dans mon ouvrage. C'est aussi tous ces destins qui, finalement, ces destins individuels qui croisent aussi la grande histoire, à la fois la grande histoire du sport, la grande histoire aussi du siècle, hein, puisque c'est vrai que y a tout le symbole d'Abebe Bikila qui remporte ce titre olympique sous l'arche de Constantin. D'où Mussolini avait finalement lancé ses troupes pour conquérir l'Éthiopie une trentaine d'années avant. Bon, voilà, il y a tout ce symbole-là. Alors après, c'est vrai aussi qu'il y a un petit peu de folklore sur Abebe Bikila. Hein. En fait, il s'entraînait plutôt sérieusement.
Hein. Il y avait un
entraîneur suédois, hein, aussi, Nikanen, qui était.
Oui, qui est dans le reportage aussi. J'ai pas passé l'extrait, mais on l'entend dans ce reportage de l'INA.
Voilà,
ouais.
C'était quand même un bon physiologiste. C'est un peu, voilà, il avait déjà des grosses bases d'entraînement. Il avait bien repéré le talent de Bikila, mais il l'a pétri, hein, ce talent. C'est vrai aussi que Bikila a remporté son premier marathon olympique à Rome pieds nus. 4 ans plus tard, il portait des chaussures à Tokyo.
Voilà, mais c'est une aussi, légende alors, qui a imprimé Bikila. Là, c'est vraiment, on est vraiment là sur une très grande légende africaine du sport et de la course.
Exactement. Et puis, c'est vrai que c'est lui qui a... Voilà, c'est l'avènement des coureurs de l'Afrique de l'Est. Hein. C'est le premier grand coureur de l'Afrique de l'Est qui domine encore actuellement la scène du marathon mondial. On l'a vu encore ce matin à Paris. Donc, c'est vrai que c'est lui qui a aussi ouvert cette grande tradition de la course de fond dans toute l'Afrique de l'Est et même de l'Afrique tout court.
Et c'est pour ce genre d'histoire, celle de Bikila, qu'il faut lire.
Ah ouais.
Il faut lire, votre livre, Les 50 coureurs qui ont marqué l'histoire, Sylvain Bazin. Votre livre aux éditions de Bock. Il ou elle, les personnages de votre ouvrage viennent de toutes les époques, de tous les continents. Un hommage en musique à cette diversité des exploits dans Mondial Sport, tiré de la playlist RFI multicolore. Emma Peters.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît. Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça, en multi. ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Oh, t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça.
Alors là aussi ça rime avec Mondial Sport, on laisse de côté sur RFI la course à pied pour enfourcher nos vélos, direction le nord de la France et la reine des classiques de la Petite Reine, la doyenne des courses d'un jour, 121e édition de Paris-Roubaix ce dimanche, l'enfer du nord, non pas pavé de bonnes intentions mais pavé tout de même, c'est l'une des nombreuses difficultés, ces pavés que doivent surmonter les coureurs pour le plus grand plaisir des amateurs, un public qui aime, qui adore cette course mythique.
Le vainqueur du Rondemont-Plan, le vainqueur de la classicissima italienne, le tenant du titre et champion du monde, c'est Mathieu Van Der Poel.
Il y a souvent du vent, tout ça, donc les pavés sont boueux. Et alors il y a du suspense, beaucoup de crevaisons, choses comme ça. Donc jusque la fin, il y a un suspense. Pour moi, c'est une des plus belles. Oui. Il y a Liège-Bastogne-Liège qui est très beau aussi, mais pour moi, c'est une des plus belles.
Mais c'est une des plus belles courses. La dureté au niveau des pavés, tout ça, en fait. La dureté, le vent. Ici, ça va, les conditions, elles sont bonnes, mais je pense qu'il y aurait plus, ça aurait été différent.
Vous venez chaque année
Chaque année, oui. Dès que c'est possible.
D'abord, les personnes, les coureurs qui les ont gagnés. Et puis ensuite, les conditions qui sont toujours, quelles que soient en fait les circonstances, difficiles. Voilà. Et puis peut-être un peu les pavés. Parce qu'il faut être au milieu et il faut rouler très très vite. Et quand on est sur le côté et qu'on roule un peu moins vite, c'est très compliqué.
Mathieu Van Der Poel en quête d'un doublé.
La plus grande du monde. Tout simplement. La plus grande du monde, la plus mythique.
En revanche, pour le suspense, on repassera, car vous l'avez entendu, il y a un homme qui était attendu et qui a de nouveau régné en maître sur Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel. Bonjour Victor Missistrano.
Salut Hugo, bonjour, bonjour à tous.
Deuxième succès de rang à Roubaix pour le Néerlandais. Né en Belgique, petit-fils d'une légende française, Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel. Une histoire familiale qui résumerait presque l'histoire du cyclisme européen. Voilà, succès sans suspense là, clairement. Promenade de santé pour lui dans cet enfer du Nord.
Oui, on peut presque dire ça, d'autant plus que son équipe Alpecin de Koenig a vraiment verrouillé la course pendant les premiers kilomètres, les 200 premiers kilomètres. Et puis après, à 60 kilomètres de l'arrivée, c'est extrêmement tôt. Comme un grand, il a pris les choses en main dans l'un des 29 secteurs pavés pour s'envoler. Vraiment, il a été absolument impressionnant. Il a littéralement dompté ses pavés avec son style caractéristique. C'est quelqu'un qui est très très élégant et très efficace dans son coup de pédalage, dans sa façon de s'asseoir sur son vélo. Il gagne beaucoup de temps parce que voilà, il fend l'air comme personne. Et puis sur ce terrain, parfois boueux, parfois glissant, il excelle, Mathieu Van Der Poel, puisque on le rappelle, il est également champion du monde de cyclo-cross. Ça s'est encore vu aujourd'hui, d'autant plus que la concurrence était clairsemée. Le vainqueur 2022, Dylan Van Baarle, on a appris juste avant le départ qu'il ne partirait pas. Et Wout Van Aert, qui est l'une des grosses stars du peloton et le principal rival de Mathieu Van Der Poel, n'était pas au départ puisqu'il est tombé il y a quelques semaines et qu'il se remet encore de cette chute.
Alors justement, on va en parler des chutes. Deuxième victoire de rang donc sur Paris-Roubaix pour Mathieu Van Der Poel, l'enfer du Nord qui a été une promenade de santé pour lui. Pour les autres, qu'en est-il, Victor Missistrano? On se moque souvent des commentateurs de cyclisme en les imitant ainsi. Chute, chute à l'arrière. Là, c'était plutôt chute à l'avant ces derniers temps dans le cyclisme. Vous avez parlé de Wout van Aert, pas mal de ténors de la petite reine sont tombés sur les routes dernièrement. Vingegaard notamment, le Danois double tenant du Tour de France. Est-ce qu'il y a eu des chutes, des dégâts de nouveau à déplorer sur Paris-Roubaix, cette fameuse course pavée qui fait tant flipper, si je puis dire, les coureurs?
Alors il y en a eu parce que il y en a, si j'ose dire, toujours hein, à Paris-Roubaix. Hier, quand on discutait avec des coureurs, certains nous disaient qu'ils savaient tout simplement qu'ils allaient tomber. En tout cas, ils savaient qu'il y aurait des chutes. Il y en avait eu énormément lors de la reconnaissance. Je pense que par rapport à ce que les coureurs craignaient, notamment au moment de la reconnaissance il y a 2 ou 3 jours, ça a été un petit peu moins important. En fait, ça s'explique aussi parce que c'est allé très 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 vite et donc que l'écrémage s'est fait. Et à partir de ce moment-là, au moment d'aborder des secteurs clés très importants où on joue des coudes pour bien se placer, bah là le peloton était suffisamment clairsemé pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et donc la trouée d'Arenberg qui a tellement fait parler avec ce fameux ralenti. Et bien, le peloton, c'était un tout petit groupe en fait. Ils étaient 30 coureurs et donc, au moment de ce ralentissement, il n'y a pas du tout eu de chute comme ce qui était attendu.
Merci beaucoup Victor Missistrano, notre envoyé spécial sur Paris-Roubaix ce dimanche cette année. Un Paris-Roubaix plutôt clément en termes de conditions climatiques. On vous obtiendra du vent, encore plus de vent et de la pluie l'année prochaine Victor. On vous laisse rentrer, vous abriter et continuer à travailler pour RFI et nous livrer les réactions des protagonistes, peut-être du vainqueur dans nos journaux des sports sur RFI. Mondial Sport touche à sa fin. On va remercier Sylvain Bazin qui a été notre invité. Peut-être qu'on vous retrouvera pour les 50 coureurs cyclistes qui ont marqué l'histoire dans un futur proche. Sylvain Bazin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Votre livre
merci
qu'on
vous,
peut
merci.
Se procurer dès maintenant et à quelques mois des JO, ça vaut vraiment le coup pour en apprendre sur l'histoire de la course à pied, les 50 coureurs qui ont marqué l'histoire, hashtag athlétisme, hashtag marathon, hashtag trail, c'est aux éditions de Buck. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également à Claude Battista, merci à Laurent Philippot à la réalisation de Mondial Sport ce dimanche. Je vous rappelle donc la victoire sur Paris-Roubaix de Van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, perdant magnifique du sport français. Son esprit était présent durant la conception de Mondial Sport, puisqu'un autographe de Poulidor, pour je cite la RFI, trône sur l'étagère qui se trouve sur la gauche du bureau sur lequel je prépare cette émission chaque week-end. Le week-end prochain, je laisserai ma place à Christophe Diramzian dans Mondial Sport. Soyez au rendez-vous. En attendant, le sport continue sur la Radio du Monde, de nouveaux journaux des sports ce soir et demain matin, puis Radio Foot International toute la semaine à 16h10 temps universel. Demain, ce sera avec Olivier Pron. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Tout de suite, un nouveau journal international sur la Radio du Monde. 30 minutes d'information en langue mandingue. Si vous nous écoutez en Afrique de l'Ouest, excellente soirée à vous toutes et à vous tous à l'écoute de la Radio du Monde.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio. RFI.